Les podcasts du Collège de France, biologie.
Et donc on est à l'avant-dernière séance. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout terminer aujourd'hui, donc c'est probable que je ferai une demi-séance la semaine prochaine, une heure, en fonction de là jusqu'où on va. Et ensuite, donc, on aura une conférence par Nathalie de Statny sur la question des gradients de bicoïdes dans l'embryon de mouche. Hein. Bon. Donc pour faire un petit rappel, pour ceux qui ont raté les étapes précédentes, la question qui nous agite, c'est celle de comment faire un gradient de morphogène. Parce que l'idée classique, c'est que j'ai, comme je l'ai souvent dit, mais je le répète, je le dis pour les absents, on a une source et puis on a une molécule qui diffuse comme ça. Et on a longtemps pensé que c'était le cas en fonction des résultats qui ont été obtenus par le groupe de Nusslein-Volart sur la mouche, jusqu'au moment où, plus récent d'ailleurs, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. En particulier, les constantes de diffusion sont incompatibles avec l'établissement d'un gradient spontané. Et donc, il faut envisager des systèmes qui sont des systèmes de diffusion facilitée, c'est-à-dire en fait de transport. Donc l'autre jour, je vous ai parlé un petit peu de système de transport, mais en fait, je vous ai raconté des histoires parce que, comme toujours, il ne faut jamais croire les gens sur parole, surtout les scientifiques. Mais je vous ai raconté des histoires parce que je vous ai dit, il y a les argosomes, il y a les exosomes, vous vous rappelez Et en fait, ce n'est pas parce que je suis sur un argosome que je suis transporté plus facilement pour ça. L'argosome ne diffuse pas plus, plutôt moins, d'une certaine façon, qu'une molécule libre. Et si je suis dans un exosome, c'est-à-dire que je vais être... Alors l'argosome peut faire quelques cellules et puis ensuite être endocytosé ou présenter son morphogène à la cellule réceptrice. Mais cela ne résout pas le problème du transport. Comment diffuse-t-il? Comment est-il transporté? Et pour l'exosome, c'est pareil, il peut être capturé par une cellule. Une fois qu'il a été capturé, il faut bien que s'il passe de cellule en cellule, il y a quelque chose qui l'amène de cellule en cellule, parce que là encore, la diffusion n'explique pas tout. Donc le fait d'être sur un argosome ou sur un exosome, ça n'arrange rien. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous proposer des choses qui pourraient arranger le système, qui pourraient, parce que une fois de plus, on va être dans l'incertitude, la glorieuse incertitude de la science. Glorieuse, ça dépend des jours, mais c'est comme pour le sport, l'essentiel c'est de participer. Donc, je vais commencer avec les cytonèmes, et qui est une des trouvailles, probablement les plus rigolotes, qui a été mise en place, qui a été découverte par... Où est-ce que je suis, moi? Évidemment, là, aujourd'hui, je suis complètement fatigué. Où est-ce qu'il me... Bon, alors attendez. Est-ce que j'ai passé à l'autre là? Est-ce que je suis... Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cytonème? Donc, les cytonèmes ont été découverts par un type qui s'appelle Kornberg, Thomas Kornberg. Et le premier papier sur les cytonèmes, c'est 1999. Alors, l'idée, si vous voulez, elle est relativement simple. L'idée, c'est que... je suis une cellule et j'ai envie d'un morphogène, c'est-à-dire que je le sens. Hein, et donc, j'envoie un long filament, c'est comme une trompe d'éléphant, qui va aller chercher le morphogène et je me le ramène, non pas comme ça, mais parce que le morphogène va maintenant diffuser le long du filament, qui est un filament très riche en actine, comme vous allez le voir. Donc, ça, c'est le La première, c'est le résumé d'une certaine façon du papier de Thomas Kornberg, qui a fait un très très grand bruit en 1999 parce qu'il donnait, si vous voulez, une première explication possible de la façon dont ça pouvait marcher. Donc, de nouveau, moi, je ne suis pas du tout sûr que ça marche comme ça, mais c'est une possibilité qui est intéressante. Donc, là, vous vous retrouvez de nouveau avec votre disque imaginal. Alors, maintenant, vous êtes des spécialistes de la drosophile, tout autant que vous êtes. Donc, vous avez donc le disque imaginal de Leil, avec ici vos cellules qui vont vous donner donc la future aile, les cellules péripodiales qui ne participeront pas à la partition de l'organisme, la surface apicale, la surface basolatérale, rappelez-vous. Donc, vous pouvez avoir différents types de... Ici, vous avez la frontière antéro-postérieure, celle qui exprime notre morphogène DPP. Hein. Donc là, je crois que maintenant, on est blindé. Donc, ce qui était fait là, c'était d'exprimer la GFP, cette protéine fluorescente, dans le disque imaginal. Et ce que vous pouvez peut-être voir, peut-être pas très bien, c'est que voilà ici le disque, avec de la GFP qui est exprimée plutôt dans les régions périphériques du disque. Et puis, on peut regarder en agrandissant soit D, soit E, soit F, soit G, soit H, et c'est exprimé ici. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans les domaines qui sont les domaines périphériques, F, E par exemple, ou D, vous allez voir des filaments extrêmement longs, comme ça, des espèces de petites stries, comme ça, qui avaient échappé à l'observation des biologistes, parce que ce sont des filaments qui se cassent la figure dès qu'on les fixe. C'est-à-dire, il ne faut pas les regarder, quasiment, parce qu'ils se rétractent. Donc, si vous les fixez, vous ne voyez plus. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut voir que dans une situation où on ne fixe pas les disques imaginaux. Et ils ont l'air, comme vous voyez, de pousser extrêmement droit. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, là. Ou peut-être qu'il faut mieux que je mette sur diapo rétro, vous aurez un petit peu plus de sombre. Hein. On voit mieux, hein. Donc, vous voyez ces espèces de petites choses comme ça, c'est extrêmement fin. C'est un diamètre, je ne sais pas, de 1 ou 2 micromètres. Hein. Donc, et ici, vous pouvez le voir de nouveau comment ça se produit. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exprimé de nouveau, mais alors sous le contrôle de. Vous voyez, alors là, prenez B, hein. Vous avez tous ces cytonèmes hein, qui vont aller migrer vers le centre. Et si ce sont des patchs de cellules qui expriment, si vous mettez en C, vous allez avoir les cytonèmes qui vont aller migrer dans l'autre sens. Hein, vers, en fait, ils vont migrer vers où ? Ils vont migrer vers le bord antéro-postérieur, c'est-à-dire vers là où on imagine qu'il y a les sources de morphogènes, par exemple, DPP, le long de l'axe, la frontière antérieure-postérieure, ou si je suis en dorsale ventrale, vers wingless, hein, pour ceux qui ont une petite mémoire de la façon dont ça s'est passé. Hein. Et vous voyez que si je suis en D, je vais avoir mes cytonèmes qui sont là. En E, j'en ai un tout petit peu, pas énormément. Alors, ici, j'ai pris une région qui correspond très exactement au bord, c'est-à-dire que j'ai exprimé ma GFP sous le contrôle d'un promoteur qui est le long de la frontière antéro-postérieure. Par exemple, ça pourrait être le promoteur de patch. D'ailleurs, je crois que c'est le promoteur de patch qui est donc régulé par Sonic et Jog, ou par Hedgehog chez la mouche, et donc justement au bord. Et quand vous prenez juste les cellules qui sont au bord, vous voyez que vous n'avez pas de cytonèmes. Hein, c'est-à-dire que si vous prenez des cellules qui sont là où il y a la source du morphogène, ces cellules n'envoient pas de filaments vers la source de morphogène. D'une certaine façon, ça serait assez logique, puisqu'ils y sont déjà, ils n'ont quand même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, j'envoie des cytonèmes d'autant plus que je suis loin, vous voyez, de la source, et j'envoie vers la source. Donc, je peux aussi prendre mes cellules, hein, et les dissocier, les mettre en culture. Et là, maintenant, elles sont extraordinairement rondes, hein, parce que je les ai mises dans une boîte. Et puis, je peux les cultiver soit seules, soit avec cette région, qui est la région source de DPP. Et, ou bien, je peux les cultiver au contact de cellules que je vais avoir transfectées avec un facteur de croissance, et vous allez voir lequel. Donc ici, j'ai mes cellules, hein, et puis je vais les cultiver avec ces cellules-là, et vous voyez que tout de suite, j'ai mes cytonèmes. Alors là, je les vois vraiment bien, c'est très joli, parce que je suis en culture, je ne fixe pas, et je peux regarder ma structure. Et ce sont des structures très longues, hein, ça peut faire plusieurs fois, 10 fois, jusqu'à 10 fois le diamètre d'un corps cellulaire. Ça peut être des structures de 100 à 200 micromètres, c'est-à-dire que ça peut quasiment faire l'entièreté de mon disque. Vous voyez ici la structure incroyablement longue de ce cytonème. Et là, ce que j'ai fait, c'est une cellule, hein, que vous ne voyez pas, mais elle est là. Et cette cellule exprime, c'est une cellule S2, donc c'est des cellules de drosophiles, des cellules S2. Et cette cellule S2 exprime un facteur qui est le facteur de croissance fibroblastique, le FGF, hein, et de drosophile. Et quand S2 exprime le FGF, vous voyez que votre cytonème semble, hein, semble être attiré par cette cellule. Évidemment, c'est un papier qui était très original. Je ne suis pas sûr qu'il soit entièrement convaincant à tous les niveaux, pour rien vous cacher. Mais il reste que c'était bien parce que ça propose quand même ça offre une solution à cette question qui est cette question majeure, hein, de comment je vais aller chercher les morphogènes puisque les morphogènes ne viennent pas à moi. Hein, c'est comme dans la chanson, tu ne vas pas à la Gardère, voilà. Donc, puisque les morphogènes ne peuvent pas diffuser, simplement, il faut trouver un moyen de les attirer ou de les faire revenir. Donc ça, c'était... Et comme ce papier répondait à cette question, et puis que comme c'est Thomas Kornberg, bien sûr, peut-être qu'il y a des points qui ne sont pas totalement, je dirais, cachers, qui ont quand même passé. Donc, vous pouvez prendre deux tissus. Hein, vous pouvez prendre... Alors là, ça veut dire antérieur et postérieur, hein, dans l'aile drosophile. Vous pouvez... Et C, c'est la région centrale de frontière, là où j'ai normalement l'expression de DPP. Et puis, si je mets A et A, vous voyez que j'ai très, très peu de formation de cytonèmes. Hein. Si plus, ça veut dire très peu. P et P, postérieur et postérieur non plus. Centrale et centrale, évidemment, très peu non plus. Mais si je mets A avec C, tout de suite, je vais avoir une formation très très forte de ces filaments. C'est simplement une espèce de semi-quantification. Comme vous savez, quand nous on met plus, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas véritablement quantifié. C'est semi-quantitatif. Il faut prendre un aveugle, comment dire, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il y a dans le puits, puis on lui fait mettre des croix, savoir si c'est plus fort ou moins fort. Mais il reste que P et C, évidemment, ça va être très fort. Et puis, on peut faire différentes combinaisons. Par exemple, si je prends un segment postérieur avec C d'un disque imaginal, cette fois-ci de pattes, je vais aussi avoir des réponses. Donc, ça, c'est avec des cellules S2, qui sont donc des lignées cellulaires de drosophiles, auxquelles je peux faire exprimer ce que je veux. Hein. Et par exemple ici je prends des régions antérieures A et S2, quand je vais chercher DPP, en fait il ne se passe rien, donc en fait DPP n'attire pas, ne crée pas, n'entraîne pas la formation de cytonèmes. Hedgehog non plus, hein. Curieusement, Hedgehog non plus n'entraîne pas la formation des cytonèmes. Par contre ici, si je prends A et C, alors maintenant je reprends du domaine central et j'inactive Hedgehog, c'est-à-dire que je prends et il ne se passe rien, c'est-à-dire que Hedgehog ne permet pas, mais Hedgehog est nécessaire. Hein, quand je prends la bestiole normale, c'est-à-dire ici la partie centrale de mon disque imaginal. Et que ce soit antérieur ou postérieur, si j'inactive Hedgehog, parce que j'ai ici un allèle Hedgehog qui est un allèle thermosensible, eh bien, c'est-à-dire que Hedgehog est nécessaire. Peut-être qu'il entraîne la synthèse et la sécrétion de quelque chose qui entraîne, lui, secondairement, la formation des morphogènes. C'est l'explication la plus simple. Hein. En particulier, vous verrez, je pense, les histoires de FGF. Hein. Donc, je peux aussi prendre des embryons de souris. Et vous allez voir que chez les souris, j'ai aussi la formation de ces petits filaments d'actine ces prolongements qui sont riches en actine et dans lesquels il n'y a que de l'actine et rien d'autre. Hein. Alors, ce que je trouve, la raison pour laquelle, ce n'est pas pour que vous lisiez tout ça, bien entendu, mais Mais c'est pour vous compreniez un petit peu par rapport à ce qu'on a raconté depuis maintenant presque un mois, comment la chose se place, hein. C'est-à-dire que ça se place évidemment dans une théorie des gradients, c'est-à-dire l'idée que les patrons corporels sont déterminés par des gradients morphogénétiques date depuis les débuts de l'embryologie expérimentale, hein. Mais il n'y a pas vraiment d'expérience convaincante, sauf celle qui a été proposée par Nusslein Vollaert et par ses collègues, qui ont montré qu'il y a un gradient monotone ou linéaire de bicoïdes se forme le long de l'axe antéro-postérieur de la drosophile. Hein. Et ils ont montré que bicoïdes agit comme un morphogène dans une façon concentration dépendante. Hein. Donc, ici, il est libre de diffuser extensivement parce que l'embryon est un syncytium dont les noyaux partagent un cytoplasme commun. Hein. Donc, et cette méthode pour créer un gradient ne peut pas marcher chez les organismes multicellulaires, hein, puisque eux, ils n'ont pas un syncytium, hein, pour reprendre l'affaire. Et vous voyez qu'en fait, en 1999, hein, on imaginait encore que ces gradients de morphogènes, y compris bicoïdes, pouvaient se former dans la mouche par simple diffusion. Alors que, comme je l'ai dit, depuis qu'on a ces molécules fluorescentes et qu'on a pu faire du photobleaching, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas vrai, que la vitesse de diffusion, hein, qui était de 0,2 micromètre carré par seconde, était 100 fois inférieure à ce qu'il aurait fallu pour faire un gradient dans un embryon qui était quand même 500 microns en l'espace d'une heure ou deux. Donc, même en 1999, quelqu'un comme Kornberg était encore dans cette idée, hein, que c'est comme ça que ça se fait chez la mouche, chez l'embryon, mais que donc ça ne se passait pas comme ça chez les organismes multicellulaires et qu'il fallait inventer autre chose. Aujourd'hui, je pense qu'il faut inventer autre chose, non seulement pour les organismes pluricellulaires, mais aussi pour l'embryon de mouche. Hein. Donc, on est revenu finalement à un système où on a fait marche arrière, quoi. C'est-à-dire qu'on est carrément avant 1988, hein, la date de publication des papiers du groupe de Nusslein Vollaert. C'est intéressant, quoi. Donc, alors, évidemment, quand quelqu'un comme Kornberg fait une découverte de ce genre, je pense que c'était une découverte importante dans le contexte qui nous intéresse ici. On se dit, est-ce que ça a déjà été vu avant? Et comme toujours, chaque fois qu'on découvre quelque chose, on sait bien que c'était déjà vu avant. Hein. C'est une des choses les plus désespérantes, d'ailleurs. On pense être original, et puis on fait un peu de biblio. Et on se rend compte que ce n'est pas si original que ça. Et vous voyez ici un article, je pense, assez ancien. Je ne vois plus rien du tout, moi. C'est vraiment grave. Je dirais les années 80, avant la fin des années 70, hein, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Moi, je ne veux pas essayer d'écrire quelque chose là. Bon, ce n'est pas grave. Mais eux ont travaillé sur l'embryon d'oursin. Et dans l'embryon d'oursin, eh bien, on avait observé des filaments, vous les voyez ici. Hein. Alors là, c'est un embryon d'oursin. Ici, ce que vous avez, c'est l'arc entéron, c'est-à-dire en fait l'endoderme primitif. Hein, vous avez l'ectoderme, qui est évidemment la partie extérieure, hein, de votre embryon d'oursin. Et puis vous avez deux mésenchymes. Vous avez un mésenchyme secondaire, qui est ici, où il y a déjà des petits phyllopode, mais relativement raisonnable en taille. Hein. Et puis vous avez les cellules mésenchymateuses primaires qui sont ici, qui se condensent, comme vous voyez ici, pour faire du squelette, le squelette intérieur de votre oursin. Et vous voyez que ces cellules vont aller chercher via ces filaments, qui sont des filaments extraordinairement riches en actine et qui sont typiquement des cytonèmes, hein, rien d'autre, aller chercher une information au niveau des cellules ectodermiques, avec un échange probable d'informations entre les cellules mésenchymateuses primaires et l'ectoderme de surface de mon embryon d'oursin. Donc, j'essaie de voir la date. Je crois que c'est 1985, un truc comme ça. Donc, bien avant 1999, quand même 14 ans. Et là, de nouveau, ce qu'on peut voir, ça c'est in vivo, avec des clichés évidemment successifs toutes les 10 secondes. Tiens, il s'est passé quelque chose. Oui, toutes les 10 secondes, et bien on peut voir que c'est un système extrêmement dynamique. Pas vous embêter avec ça, mais si vous suivez, c'est très dynamique d'ailleurs, oui. si vous suivez un seul de ces filaments, vous verrez qu'à fonction du temps, il change de morphologie. C'est-à-dire que ça bouge énormément. Alors, ces filaments sont des filaments sont des riches en actine. Hein. Vous voyez ici, par exemple, qu'ils sont... ouais, c'est 1985. Qu'ils sont marqués par la phalloïdine. Là, c'est une cellule en culture, hein, si je me souviens bien. C'est une cellule en culture de mésenchyme primaire. Et puis, il y a une façon de bousiller le développement d'un oursin, c'est de le ventraliser. Pour ventraliser un oursin, on lui fait manger du chlorure de lithium pour des raisons que je ne peux pas vous développer ici, mais ça interfère avec les signaux de type BMP chez l'oursin. Et vous voyez que si je traite un oursin avec du chlorure de lithium, alors il devient fou. Enfin, un oursin fou, ce n'est pas toujours facile à repérer, mais il est ventralisé et à ce moment-là, il envoie ses citonèmes dans tous les coins, dans tous les sens. Et si j'ai sorti cette image, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, ces filaments peuvent être extraordinairement longs quand ils sont marqués ici par l'actine. Donc, oui, des citonèmes chez la mouche, mais on les avait déjà vus chez l'oursin, un autre invertébré. Et puis, voilà quoi. Donc, quelques années plus tard, en 2005, toujours le groupe de Kornberg a ressorti un article pour montrer que des cas pataplégiques, donc en fait, comme vous le savez, ce morphogène qui marque la frontière antéro-postérieure de la mouche et qui va aller former des deux gradients, hein, je vais raconter ça plusieurs fois maintenant, vous êtes des spécialistes, comme je l'ai dit, que des cas pataplégiques est capable, évidemment, de peut-être, c'est ce que propose en tout cas Kornberg, est capable d'être transporté le long de ces citonèmes vers les cellules qui sont à distance. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin de voir des cas pataplégiques diffusés dans l'axe antéro-postérieur. Il n'y a plus besoin de diffuser puisqu'on va aller le chercher. Donc, on va lui offrir un rail sur lequel il va pouvoir se déplacer pour arriver jusqu'aux cellules qui ont besoin de ce morphogène pour enclencher un programme de différenciation correspondant à leur position dans l'aile. Ce qui là n'est pas sans poser des problèmes, vous imaginez bien, puisque à ce moment-là, il n'y a plus de gradient. Il n'y a plus de gradient, c'est la position qui compte. Mais ce n'est plus forcément le gradient, puisque si je me déplace dans un citonème, c'est ce que tout le monde va en avoir peut-être autant. Il n'y a pas de raison que ça aille plus vite dans un sens que dans l'autre. Donc, toujours est-il que ce qu'ils ont fait ici, c'est des clones au hasard exprimant cette protéine fluorescente. Et puis, oui, c'est parce que je suis trop long. Ayant ces protéines, ils ont regardé un tout petit peu comment ces clones poussaient leurs citonèmes. Alors, vous voyez ici un clone C, un clone D, on voit des petits citonèmes comme ça qui passent dans tous les sens. Mais si je prends un clone qui est dans la zone de Lynch, qui n'est pas dans le disque imaginal au sens strict, celui qui va donner l'aile, mais qui est autour, ici, dans la zone orange, vous voyez que si je prends dans la zone orange, je n'ai pas du tout de formation de filaments, c'est-à-dire que ces cellules ne vont pas être sensibles à un attracteur qui va aller les chercher. Maintenant, ici, si je prends un clone qui est dans la zone, je dirais, postérieure ventrale, eh bien, ce clone postérieur ventral, qui est, je crois, celui-là, va aller, donc qui est celui-là, va aller pousser des citonèmes vers la frontière ventrodorsale, et celui qui est ici, donc qui est présenté deux fois, et ça sont deux images confocales du même clone, du même mini-clone de cellules. Vous avez une cellule qui va partir vers un citonème qui va partir vers la frontière antérieure-postérieure et d'autres citonèmes qui vont partir vers la frontière dorso-ventrale. Donc l'idée, c'est que ces fibres se dirigent vers ces zones pour aller y capturer les molécules qui vont remonter ensuite, vers le clone lui-même pour lui donner une information de type, de quel type, j'en sais rien d'ailleurs. Puisque positionnel, ça vient dire que c'est une information positionnelle, puisqu'ils vont tous chercher à la source. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas sentir un gradient décroissant, ils vont directement chercher à la source. Oui. C'est une bonne question. On va y revenir dans 30 secondes. Ce serait bien de savoir comment ils savent où aller. C'est probablement des facteurs de croissance de type FGF qui leur disent... Voilà, il y a deux solutions. Ou bien ils savent où aller, hein, et donc ils sentent un gradient, donc on revient au problème précédent, donc catch 22. Hein. Ou bien ils envoient des cytonèmes dans tous les sens, ils se stabilisent là où il y a la molécule qui les intéresse. Hein. Donc ce sont deux hypothèses possibles. Oui, Klaus.
Dans ce fibre que tu as montré tout à l'heure, c'est plutôt des chaînes de perles que des fibres. Est-ce qu'on sait ce que c'est?
Non, ça sont les... Parce que probablement les niveaux d'actine, toi, ils décorent l'actine avec de la phalodine fluorescente. Et donc ce n'est pas des filaments entièrement lisses. Mais en fait, là, c'est juste... Il y a des particules attachées, on va y revenir. De toute façon, on va voir qu'il y a des particules. Il y a des récepteurs, d'ailleurs, qui migrent. Par exemple, le récepteur de Figvein, qui est le récepteur de DPP, migre à la surface du cytonème vers les cellules qui expriment ces cytonèmes. Hein. Et là, on a de nouveau une question intéressante qui revient à la question que David Hoffman a posée. C'est-à-dire que si maintenant je prends un petit clone comme ça, et que je surexprime violemment DPP, des cas pataplégiques, je vois que je provoque, c'est ce que proposent nos collègues, provoque la formation de cytonèmes dans tous les sens, c'est-à-dire que le patch de cellules ne sait plus où il en est. Donc quand même, l'expression dans un certain domaine de DPP, c'est une information pour le patch de cellules. Et vous voyez que même si je me mets maintenant dans la région du Hinge, hein, où normalement je n'ai pas formation de cytonème, si je surexprime des DPP par transgénèse dans l'ensemble de mon disque, je vois que maintenant, ces cellules se mettent à faire les cytonèmes. Donc, il semble même que le morphogène est capable d'induire la formation des cytonèmes par les cellules. Donc, on continue avec cette histoire de cytonèmes et effectivement, comme disait Klaus, on voit des petites vésicules ici. Donc là, je regarde, j'ai mes petites boucles là et ce que j'ai fait, c'est prendre Figvein. Hein. Donc Figvein, c'est, comme vous le savez, c'est le récepteur de DPP. Donc, vous vous rappelez, DPP se fixe sur Figvein et entraîne la phosphorylation de MAD, et ça va dans le noyau, et ça entraîne la transcription des cibles de DPP. Donc, ce qui se passe ici, c'est que, si je regarde un petit peu précisément, voilà, mon cytonème est là, et puis au bout de 0,15 secondes, il est là, enfin, mon récepteur, hein, au bout de 30 secondes, là. Donc, mon récepteur migre hein, à la surface du cytonème. Donc, donc ça, c'est encourageant. Hein. J'en ai oublié un quelque part, je pense. C'est pas très grave. Donc, et ici, qu'est-ce que j'ai fait en D? J'ai mis du DMSO. Pourquoi? Parce que c'est un solvant dans lequel, ici, au lieu de mettre du DMSO, j'ai mis de la cytokalasine, c'est quelque chose qui bousille les filaments d'actine. Vous voyez ici que j'ai mes récepteurs qui, je l'espère, vont aller migrer vers mes cellules, mais si je bousille l'actine, les cytonèmes ou les récepteurs qui sont au contact des cellules sont toujours là, mais je ne trouve plus rien à l'extérieur. Donc l'idée, c'est que... Ils ne bougent pas, ils ne bougent plus. Donc l'idée, c'est que j'ai besoin d'avoir un squelette d'actine viable et solide pour pouvoir avoir le transport rétrograde de mon récepteur une fois que mon filament est allé chercher son morphogène à une distance un petit peu lointaine, même très lointaine. Vous voyez, quand même, ce sont quand même des animaux. Ici, j'ai le diamètre d'une cellule, là, quasiment. Donc, ce sont quand même des animaux qui sont extrêmement longs sur le plan du rap. Et très fins aussi, très très fins. Je l'ai dit, de l'ordre de 1 à 2 microns de diamètre. Donc, c'est une solution. Et ce que disait à un moment Kornberg dans une de ses conclusions, c'est que fondamentalement ça ressemble à des phyllopodes très très fins. Et il fait l'hypothèse à la conclusion de son article que peut-être que c'est quelque chose qui se passe aussi pour les neurones. Vous savez, quand la cône de croissance se promène, il a des phyllopodes qu'il envoie comme ça, on ne sait pas trop bien comment ça. Il dit peut-être que les phyllopodes, ce sont d'une certaine façon des cytonèmes courts, quoi. Des syllabènes de neurones. Alors, oui, c'est possible. Il y a donc des gens qui ont été regardés un petit peu si les phyllopodes pouvaient agir de la même façon. Et ils n'ont pas pris des phyllopodes de neurones, ils ont pris des phyllopodes de fibroblastes, ce qui, évidemment, c'est moins sympa, je veux dire, c'est moins noble, mais bon, c'est quand même des cellules. Donc, ils ont été regarder un tout petit peu ce qui se passe quand un phyllopode de fibroblastes exprime un récepteur qu'on appelle ERBB1, qui est un récepteur de l'EGF, qui est le epidermal growth factor. Et ce qu'ils ont essayé de voir, c'est si ça fonctionnait comme dans les cytonèmes de Thomas Kornberg, avec des techniques qui sont des techniques un peu plus contemporaines d'elles-mêmes, si j'ose dire, dans la mesure où c'est des quantum dots. C'est-à-dire qu'ils ont regardé. Les quantum dots, c'est donc des espèces de petites particules semi-conductives, mais qui sont fluorescentes, mais qui sont d'une très grande stabilité. C'est-à-dire que le rapport signal sur bruit est assez élevé, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de bruit, et en même temps, on peut les suivre longtemps parce que ça ne bleache pas, c'est-à-dire que la fluorescence se maintient. Comme Maxime est là, si j'ai des conneries, Maxime, tu pourras toujours intervenir, parce que c'est le roi des quantum dots. La semaine dernière, on avait le roi des exosomes, la reine des exosomes, et là, on a le roi des quantum dots. C'est un cours extraordinairement chic. Donc, ce que vous voyez ici, donc, ce sont ces prolongements à la surface de mon fibroblaste, et je crois que là, c'est... je ne sais plus très bien dire en rouge, donc c'est A, vous allez pouvoir voir ça avec moi, probablement... C'est le quantum dot. Donc, mon facteur de croissance GF est lié à ce quantum dot. On voit qu'il se fixe ici. Et là, j'ai ERBB1 activé, c'est-à-dire que quand le facteur de croissance fixe son récepteur, il entraîne une phosphorylation du récepteur. C'est la réponse signal. Et donc, je peux voir que j'ai une corrélation entre la fixation, et ça, c'est la corrélation faite ici, entre la fixation de mon quantum dot, c'est-à-dire fixation en fait de mon facteur de croissance, et l'intensité d'activité de mon récepteur. Vous voyez que c'est relativement corrélé, disons. C'est jamais 100%, c'est de la biologie. Donc, ce qui était aussi regardé à ce niveau-là, c'est comment ces choses répondent à différents agents. Donc, là, c'est le contrôle. Donc, on voit que j'ai une forte activation. Et là, c'est ce qui se passe. En fait, j'ai un fort mouvement, en l'occurrence, un mouvement vers la source cellulaire. Là, c'est ce qui se passe quand j'ai du nocodazole, c'est-à-dire si je bousille les microtubules. Et là, c'est ce qui se passe quand je bousille soit l'acidocalazine D, c'est-à-dire l'actine, quand je n'ai plus d'actine en noir, ou quand je bloque la phosphorylation de mon récepteur avec un inhibiteur des tyrosines kinases. Donc, vous voyez que là, j'ai vraiment besoin d'avoir un système à la fois actif et un système dans lequel j'ai de l'actine, mais les microtubules n'y sont pour rien. Donc, ça nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cytonèmes de Kornberg. C'est un système qui dépend entièrement du cytosquelette d'actine. On peut faire un certain nombre d'expériences, c'est-à-dire que voilà ici la vitesse de transport de mon récepteur qui maintenant a fixé RB1 et qui revient vers le corps cellulaire, exactement comme tout à l'heure, les cytonèmes ramenaient DPP vers mes cellules. Vous voyez que si je mets de la cytochalasine D, eh bien, je n'ai plus rien. J'ai en fait une diffusion stochastique à une vitesse de 4,2 cm² par seconde, 10 puissance moins 11. Donc, voilà. Si je mets l'inhibiteur de tyrosine kinase, je n'ai plus de transport non plus. Donc, j'ai une diffusion. Par contre, les autres traitements, et en particulier un traitement onocodazole, c'est-à-dire un traitement qui, c'est une quantification de ce que nous avons tout à l'heure, un traitement qui bousille les microtubules, je n'ai pas une variation très très forte de la vitesse de transport rétrograde depuis l'extrémité jusque vers le corps cellulaire. Hein? Et on peut évidemment quantifier tout ça, montrer que... Voilà. Ici, ce qu'on montre, c'est que le transport nécessite la repolymérisation de l'actine après qu'on ait supprimé l'actine. Donc, il y a un lien très fort entre la présence d'actine et la capacité de transport de mon quantum dot. C'est assez joli. La vitesse de diffusion de l'actine au niveau du corps cellulaire et au niveau du quantum dot du phylopode est la même, donc je n'ai pas de différence de diffusion de mon actine dans les deux. Et là, vous avez une expérience qui est assez intéressante, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que j'active mon récepteur tyrosine kinase. Hein, vous avez vu, si je bloque les phosphorylations, je bloque le transport. Or, pour activer les tyrosine kinase, il faut que j'ai deux molécules. C'est-à-dire qu'il me faut deux EGF. Ça fait un pontage entre mes récepteurs, les deux parties cytoplasmiques se rassemblent et j'active la phosphorylation. Donc si je n'ai qu'un seul, une seule molécule, c'est-à-dire si je n'arrive pas à dimériser, si j'ai une concentration trop faible, eh bien je n'active pas. Et ça a été assez élégant comme façon de faire, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils font des concentrations très très faibles. Ils voient qu'en concentration très très faible, en fait j'ai une marche aléatoire de mon quantum dot. C'est-à-dire que, vous voyez, il part par là, puis il part par là, puis il fait comme ça. Donc en fait, il bouge de façon un tout petit peu stochastique. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'EGF sans quantum dot, mais de l'EGF froid, à une concentration qui permet de faire des dimères. Et à ce moment-là, vous voyez qu'à ce moment-là, il part à toute vitesse dans une bonne direction. Donc ça veut dire que je peux avoir une marche aléatoire si j'ai une très faible concentration, et dès que je fais une formation de dimère, hein, à ce moment-là, je vais avoir... Et là, c'est la même chose, tout d'un coup, je vais avoir une marche forcée quasiment vers l'origine du phylopode, c'est-à-dire vers le corps cellulaire. Hein. Là, c'est comme ça ici, je suis, et puis au moment où ça ne bouge pas, et au moment où je rajoute un petit peu plus de protéines, eh bien, à ce moment-là, je vais enclencher le système parce que je vais enclencher la phosphorylation. Donc ça, ce serait évidemment bloqué si je mettais l'inhibiteur de tyrosine kinase. En général, quand il y a des phosphorylations comme ça, des parties cytoplasmiques, des récepteurs, ça entraîne une reconnaissance par des domaines qu'on dit SH2 ou SH3, qui eux-mêmes entraînent des fixations sur des moteurs. Et donc, c'est probablement un moteur qui remonte le long du filament d'actine. Ce qu'on sait dans ce cas-là, par contre, c'est que le facteur reste à la surface du cytonème. C'est-à-dire que il migre dans le plan de la membrane, hein, il est transporté, mais il reste dans la membrane. Il n'est endocytosé dans la cellule que quand il arrive au niveau de la cellule. Hein. Et ça a été montré de façon assez élégante ici. Par exemple, vous avez donc, là c'est des quantum dots, hein. Vous avez ici donc votre EGF qui est fixé sur le quantum dot, voilà le quantum dot, mais il y a encore de la place, hein, pour fixer d'autres choses. Et en fait, ce qu'on peut fixer, c'est des biotines, hein, c'est de la streptavidine, c'est des biotines avec un accepteur, c'est-à-dire qu'avec un autre fluorophore. Et si vous rajoutez l'eau de fluorophore, vous pouvez avoir un quenching de la première fluorescence. Donc, vous voyez ici votre quantum dot avec le GF. Hein. Vous rajoutez la biotine avec un accepteur de fluorescence. Hein, et vous voyez ici que vous allez diminuer votre fluorescence. Comme ça, vous êtes capable de savoir si votre protéine est à l'extérieur ou pas. Hein. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que ce quenching de fluorescence montre que votre protéine est à l'extérieur. Et ici, c'est avec un autre accepteur, et, qui est A546, dans lequel, quand vous avez un quenching, en fait, vous devenez rouge. Donc, en fait, ici, vous étiez vert. Vous rajoutez votre biotine, ça devient rouge, ça veut dire que je suis à l'extérieur. Mais au niveau du corps cellulaire, hein, vous voyez que j'ai encore du vert. C'est-à-dire que je suis protégé. J'ai déjà eu l'endocytose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le récepteur, avec son cargo, hein, se transporte le long du phylopode, et quand j'arrive au niveau du corps cellulaire, je suis endocytosé, et à ce moment-là, rappelez-vous l'histoire d'endocytose, je peux continuer à aller faire de la signalisation à partir de l'endosome précoce. Hein, vous rappelez les histoires RAP5, RAP7, etc. de la semaine dernière. Donc, un mécanisme qui est un mécanisme qui est celui, typiquement celui que Kornberg propose aussi pour les cytonèques. Voilà, donc un schéma. Hein. Donc j'ai le phylopode, ou un cytonème si vous préférez, c'est-à-dire une longue extension qui est bourrée de filaments d'actine. J'ai ici mon récepteur, hein, et quand je n'ai qu'une seule molécule qui se fixe, eh bien il ne se passe pas grand-chose. Si j'ai deux molécules qui se fixent, je provoque la dimérisation de mon récepteur, la phosphorylation du domaine cytoplasmique. Et à ce moment-là, je suis transporté le long, rétrogradement, là c'est stochastique, hein, je vais à droite, je vais à gauche. Hein. Si je mettais un inhibiteur de phosphorylation, je serais de nouveau stochastique. Si je n'en mets pas assez, je suis stochastique. Rappelez-vous cette marche aléatoire de mon quantum dot, en fait, que je suis, hein, c'est ça que je suis. Et puis si je phosphoryle, parce que j'ai une concentration suffisante de mes deux agonistes, à ce moment-là, je suis transporté de façon rétrograde jusqu'au corps cellulaire, je signale, hein, évidemment déjà, mais à l'arrivée, je suis capturé par la cellule et j'ai un endosome qui se promène dans la cellule et qui fait son boulot de signalisation au niveau du corps cellulaire. Donc, en gros, c'est un petit peu le modèle à la fois des phylopodes, qu'on trouve probablement dans les axones, somme toute, hein, et aussi des cytonèmes qui vont aller chercher les morphogènes parce que quand un cône de croissance se promène dans la nature pour aller chercher sa cible, bien entendu, ce qui suit, c'est des gradients, et des gradients de morphogènes, parce que quand un cône de croissance avance, il prend une certaine forme. Hein. Les morphogènes, ce n'est pas uniquement aux étapes précoces du développement, c'est aussi aux étapes plus tardives du développement. Et comme nous sommes des individus relativement évolués, eh bien, c'est aussi chez l'adulte. Hein, et ça, c'est une autre affaire. On en parlera plus tard. Plus tard, je veux dire, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. On va voir. Hein? Donc maintenant, j'aimerais revenir. Il y a un autre truc. Aujourd'hui, je vais conclure sur le poil. Hein? Enfin, je vais essayer de conclure sur le poil. Si je ne peux pas conclure sur les poils, on fera les poils la semaine prochaine. Mais il faut bien terminer par un truc un petit peu sexy quand même. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant. Mais avant de vous raconter les histoires de poils, je vais vous raconter. On va revenir à la signalisation par Sonic Hedgehog, parce que je vais pratiquement construire toute l'histoire de poils sur Sonic. Hein. Donc, vous vous rappelez Sonic. Hein. Sonic, dans l'aile de mouche, c'est le domaine antéro-postérieur. C'est pas Sonic, dans ce cas-là, c'est Hedgehog, tout simple. Hein. Hedgehog qui est synthétisé sous le contrôle de Engrel, et puis qui active la synthèse de patch, de cubitus interruptus, qui active cubitus interruptus, etc. Bon. Chez le poulet, rappelez-vous la semaine dernière, Sonic et Jog est exprimé dans le domaine postérieur du membre. Hein, donc le postérieur, ça veut dire je suis à plat, c'est là. Hein. Les deux premiers doigts et la moitié du troisième doigt sont déterminés en tant que doigts 5, 4, 3 par la concentration du morphogène Sonic et Jog, pas par sa diffusion, rappelez-vous. La moitié du 3-3 et le 3-2 sont déterminés par le gradient de Sonic à la suite d'une diffusion, et le doigt 1 se développe uniquement quand il n'y a pas de sonique, c'est-à-dire au-delà du domaine de diffusion de sonique. Donc, vous vous rappelez comment ça fonctionnait, donc avec trois domaines. Un domaine où on a l'action, au fond, celle autonome, comme on dit, du morphogène, une action non autonome du morphogène qui correspond à une diffusion, et puis une absence de morphogène avec le doigt 1, qui est une différenciation par défaut, c'est-à-dire qui demande qu'il n'y ait pas de sonic hedgehog. Alors, et ça je pense que je vais vous le rappeler, sonic est la seule... Non, je ne peux tout vous dire tout de suite. Sonic est synthétisé sous la forme d'un précurseur avec un domaine qui signale et un domaine qui va être coupé dans le réticulum endoplasmique, plutôt dans le Golgi, vous allez voir. Et puis, c'est à ce niveau-là que je vais avoir la formation d'un lien covalent avec un cholestérol. C'est la seule protéine qu'on connaisse qui est un cholestérol fixé de façon covalente. Il n'y en a pas d'autre, ça n'existe pas. Et puis, ensuite, je clive le signal peptide quand je passe dans le réticulum endoplasmique. Et là, j'ai une enzyme qui rajoute encore un morceau de gras, qui est le palmitate. Donc, j'ai du palmitate et j'ai du cholestérol, c'est-à-dire que c'est une protéine qui est doublement grasse. Ce n'est pas une grosse protéine, mais elle a deux morceaux gras, un en C-ter, ici, et un en N-ter, ici, sur une cystéine. Alors, oubliez cette partie-là, j'y reviendrai. Ça se passe comme ça. Donc, j'ai mon précurseur qui est clivé, donc c'est au niveau de ma vésicule de sécrétion, dans mon réticulum, dans mes vésicules post-golgiennes plutôt, que j'acquiers mes deux morceaux de gras, et je vais me mettre dans la membrane, et je ne peux pas être sécrété sans l'aide d'une autre protéine transformamère qui s'appelle dispatch, qui est ici. Hein. Donc je suis ici, voilà ici mon sonic hedgehog qui est ancré par ces deux fragments lipidiques dans la surface, et qui va être sécrété uniquement s'il y a dispatch. Mais comment est-ce que je peux sécréter quelque chose qui est gras, hein? Normalement, un truc qui est gras, ce n'est pas soluble. Hein? Si vous mettez de l'huile sur de la flotte, ça flotte. Hein? Donc, il y a plusieurs solutions, on va y revenir. Une première solution, c'est de former des multimères dans lesquels tous les queues grasses s'accrochent entre elles, ne laissant à la surface que les faces polaires, c'est-à-dire que la partie protéique. Et ça, on peut imaginer que c'est diffusible. Et puis, vous avez une autre solution qui est de s'insérer dans des membranes où j'ai des membranes, donc des petites vésicules, et ce que j'ai des lipoprotéines, hein, un petit peu comme les récepteurs de cholestérol, comme les LDL. Hein. Et ça, c'est ce que j'ai appelé l'autre jour les argosomes, c'est-à-dire ces vésicules qui vont aller se promener. Donc, j'ai ces gars-là qui sont là. Mais comme je vous le disais en début de cours, c'est pas parce que j'ai fait des argosomes, c'est pas parce que j'ai fait des multimères des jogs que j'ai résolu mon problème de transport dirigé, hein, qui est quand même la question essentielle si je veux atteindre le doigt 3, sa deuxième partie, et puis le doigt 2, hein, dans ce cas-là. Et pour ce qui est du système nerveux, comme je suis synthétisé au niveau de la plaque neurale, au niveau de la plaque du plancher, enfin, d'abord de la notochorde, puis de la plaque du plancher, et ensuite je vais diffuser dans le tube nerveux, je vais faire un gradient ventre-dorsal qui va déterminer là où je mets les interneurones, là où je vais mettre les motoneurones, etc. Donc ce gradient extrêmement important, ce gradient, il faut que je le forme, et le fait d'être dans ces configurations n'explique pas pourquoi je vais faire un gradient. Hein. Je peux toujours dire je diffuse, mais je sais bien que je ne diffuse pas maintenant. Enfin, je pense que je ne diffuse pas. Enfin, je suis presque sûr qu'on ne diffuse pas. En fait, on ne sait pas très bien. Mais je pense que ça ne diffuse pas. Non. Donc, trois solutions, déjà pour être soluble. Hein. Déjà, pour se promener, il faut être soluble. Parce que sinon, je me remets tout de suite dans le gras où j'étais. Je suis beaucoup mieux dans le gras quand je suis gras. Donc, cacher le gras en l'entourant avec les parties protéiques, c'est-à-dire que les phases hydrophobes par interaction hydrophobe se mettent ensemble, cholestérol et palmitate, et puis j'ai toutes les parties protéiques qui sont à l'extérieur, hein, ou bien faire un argosome, c'est-à-dire avoir des protéines, des membranes, et puis mes petits morceaux d'hedgehog qui sont ici ancrés, hein, palmitate, cholestérol, ou bien faire, vous rappelez, un exosome, hein, dans lequel je vais avoir ici des gouttelettes de quelque chose, probablement lipidique, de la membrane, et puis avoir mes cocos qui sont aussi accrochés à la surface. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nodales vésiculaires parcelles, sur lesquelles je reviendrai, parce que je vais en avoir besoin quand je vais vous parler des poils. Donc trois structures dont on imagine qu'elles sont importantes dans la migration du morphogène Sonic Hedgehog. Alors là, comment ça signale Sonic ? Parce que non, je suis obligé de reprendre les choses un petit peu loin parce que sinon je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe par la suite. Donc je suis désolé de vous embêter un petit peu avec ces bêtises. C'est pas très très rigolo. C'est vraiment un truc un peu talmudique. Hein, je me rends bien compte quoi. Mais je vous avais prévenu que ce serait technique. Hein, donc faut pas m'en vouloir. Donc jusqu'à maintenant, le récepteur de Sonic, il s'appelle Patched. PTC. Hein. Ce qu'on disait, c'est quand Patch se lie à Sonic, à ce moment-là, Patch active Smooth, c'est-à-dire qu'en fait, Smooth the Node. Donc en fait, on pensait qu'il y avait une interaction directe entre ces deux protéines, que le bleu était collé au vert, hein, que le vert empêchait le bleu d'être actif, et que si je mettais Sonic, le vert se dégageait, le bleu devenait actif, et qu'à ce moment-là, j'allais pouvoir activer les cibles de Hedgehog. C'est-à-dire qu'un effet indirect, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la molécule sur laquelle se fixe Sonic qui est active, mais c'est un cofacteur. Et pour que ce cofacteur devienne actif, il fallait que ça se sépare parce qu'on pensait qu'ils étaient liés dans une action inhibitrice. En fait, ce n'est pas comme ça. Ils ne sont jamais liés ensemble. Ils sont toujours séparés. Mais il y a un inhibiteur hein, qui se met sur Smoothened et qui est probablement craché par Patch. Hein. Donc, en fait, Patch permet le passage d'un inhibiteur qui est un stérol. Hein. Alors, il y a des gens qui prétendent que c'est la vitamine D3. On n'en est pas absolument convaincu. Ce serait un peu gênant que ce soit la vitamine D3. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la vitamine D3, il y en a partout. Et c'est très, très soluble. Ça diffuse très vite. Donc, si c'était la vitamine D3, ça veut dire qu'on aurait une inhibition de Sonic tout le temps. Et en plus, il y a des animaux transgéniques dans lesquels on a inhibé des enzymes de synthèse de vitamine D3, ils se développent relativement normalement. Bon, ils ont des problèmes d'os, hein, mais ils ont un cerveau normal, ils n'ont pas un phénotype Hedgehog KO. Donc, ce n'est peut-être pas la vitamine D3, en dépit d'un très joli papier qui est sorti dans le PLOS il y a quelques mois. Donc, et quand Hedgehog se fixe sur Patch, hein, à ce moment-là, on n'a plus de fixation de cet inhibiteur de type stérol sur Smoothened, et à ce moment-là, Smoothened peut devenir actif et aller activer les voies de signalisation de Hedgehog, d'une certaine façon. Mais pas, ce n'est pas direct, vous voyez, c'est une autre molécule qui fait le boulot via l'activation de gènes qui s'appellent GLI, GLI1, GLI2, GLI3, chez les vertébrés, et qui s'appellent Cubitus interruptus chez les arthropodes. Alors, évidemment, c'est peut-être encore plus compliqué que ça, et plus c'est compliqué, plus les scientifiques sont contents. Moi, je n'ai pas très bien compris le schéma, pour rien vous cacher. Je ne pense pas que ce soit très, très important, mais il y a un pool de stérols, et quand j'ai beaucoup de stéroïdes, j'inhibe la synthèse des stéroïdes, ça c'est un truc classique. Vous voyez que c'est un phénomène qui est très, très lié au métabolisme des stéroïdes, y compris du cholestérol. Donc, si vous voulez, je donnerai la référence. Ce genre de schéma, en fait, qui, à mon avis, ne prouve pas grand-chose, ni n'apporte pas grand-chose, mais je voulais montrer qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des molécules qui sont mutées, et qui sont mutées de telle façon que je peux soit permettre d'avoir une molécule normale, avec un palmitate et un cholestérol, soit des molécules qui n'ont que le palmitate, soit des molécules qui n'ont que le cholestérol. Soit des molécules... il n'y a pas de molécule qui n'ait rien. Donc, elles ont tous un petit bout de gras, mais il y en a qui en ont deux. Hein, un à l'avant et un à l'arrière. Et je peux regarder comment ces choses-là fonctionnent. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que avoir les deux morceaux de gras, ça permet de faire des complexes de haut poids moléculaire. C'est-à-dire que si je prends un hedgehog normal et que je le lie à une GFP, en l'occurrence, mais ça ne change rien, vous voyez que j'ai du hedgehog de bas poids moléculaire, ici, Et puis ici, j'ai une fraction, les fractions, disons, 9 à 14 sur mon gradient, qui indique que j'ai des multimères qui se sont formés. Par contre, si je retire soit la partie C-terminale, je ne sais plus lequel c'est, soit celui-là avec HNN, soit celui-là où je n'ai que le cholestérol, vous voyez que ce que je fais, c'est que je ne fais plus de complexes de poids moléculaire. Donc ces morceaux de gras sont nécessaires pour faire des particules de haut poids moléculaire. Ça ne m'étonne pas, d'une certaine façon, parce que si vous suivez ce que je vous ai dit, même cette particule-là, qui est un multimère, disons, de 6 molécules de Lejeune, elle se fait uniquement parce que j'ai interaction par les parties grasses. Et ici aussi, si je veux m'insérer dans un morceau de membrane, que ce soit celle-là, ce type-là ou ce type-là, il faut évidemment que j'ai des parties grasses. Si je ne les ai pas, en fait, une seule ne suffit pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait le palmitate et le cholestérol pour que je puisse former des multimères. Si j'en ai qu'un, je vais faire des molécules qui seront solubles et qui ne vont pas s'associer en particules. Et c'est embêtant. Parce que si je ne me mets pas en... Alors voilà, ici, alors maintenant, de nouveau, vous êtes les rois de la mouche. Donc, voilà un animal normal, qui exprime Hedgehog sous le contrôle de Hedgehog lui-même. Donc, voilà ici la zone d'expression. Et là, ça va être la zone de diffusion. Et si je regarde ce qui se passe, eh bien, je vois bien que j'ai une petite diffusion de ma molécule, au contact des endosomes, parce que là, j'ai le dextrame qui a été endocytosé. Donc, je vois que j'ai cette diffusion de mon morphogène à 3 ou 4 rangs de cellules, comme je vous l'ai montré plusieurs fois. Par contre, si je retire le cholestérol en gardant le palmitate, ou si je retire le palmitate en gardant le cholestérol, vous voyez que j'ai maintenant une diffusion extrêmement lointaine de mes molécules. C'est-à-dire que ça va aller très loin. Vous voyez toutes ces petites flèches, ce sont des molécules qui ont diffusé très très loin. C'est-à-dire que je n'ai plus de formation de complexes de haut poids moléculaire, mais j'ai une très grande diffusion de mon morphogène. Mais cette grande diffusion, elle n'est pas très sympa, parce que c'est une diffusion apicale. Vous rappelez, j'ai souvent abordé ce problème, quand je sors d'une cellule, je peux aller soit dans le domaine apical, soit dans le domaine basolatéral. Or, quand je vais dans le domaine apical, la plupart du temps, quand je suis un morphogène, je suis redirigé dans le domaine basolatéral. Donc, c'est au niveau du domaine basolatéral que j'ai tous les signaux, toutes les molécules de signalisation, en tout cas dans le disque imaginal de la drosophile. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai pris des mutants dynamines, c'est-à-dire que j'ai empêché ces Schiebayer, donc j'empêche l'endocytose. Donc vous voyez ici un petit clone où je n'ai pas d'endocytose. Et vous voyez que dans mon truc habituel, normal, j'ai mon morphogène que je vais voir dans le domaine basolatéral. Et quand je n'ai pas d'endocytose, je vais le voir beaucoup plus que quand j'en ai. Donc ça, c'est un truc qu'on a déjà discuté dans les étapes précédentes. Maintenant, si je prends un coco qui soit n'a pas de cholestérol, soit n'a pas de palmitate, je vais voir aussi que je vais avoir énormément de protéines dans ces clones, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'endocytose, mais je ne suis pas dans le domaine basolatéral, je suis dans le domaine apical. C'est-à-dire qu'en fait, si je n'ai pas mes deux lipides, je suis sécrété, et je reste dans le domaine apical, et je vais les diffuser dans le domaine apical entre les cellules péripodiales et mon épithélium. Donc ça ne va pas du tout, ça ne va pas signaler du tout cette histoire parce que je suis incapable de rejoindre le niveau où je suis censé faire de la signalisation. Donc qu'est-ce que propose ça c'est Isabelle Guerrero qui est à un laboratoire à Barcelone et qui travaille beaucoup sur la signalisation. D'ailleurs, vous l'avez déjà entendu, j'ai déjà commenté quelques articles d'Isabelle. Voilà ce qu'elle propose, c'est qu'en fait, le fait d'avoir des molécules grasses comme ça permet une meilleure fixation aux protéoglycanes, c'est-à-dire que je diffuse et je me fixe à mes protéoglycans, et qu'en fait, le fait d'être une particule de haut poids moléculaire avec des queues lipidiques entraîne une interaction plus forte avec les sucres complexes. J'espère avoir le temps de vous parler de ce complexe, mais je dis toujours, et puis je ne le fais jamais. Mais ça, c'est la vie. Et là, vous voyez que si je retire ici le cholestérol, je vais avoir une moins grande affinité pour les sucres. Donc, en fait, le sucre et le gras, ça va ensemble. Vous me direz, vous le saviez sur le plan diététique, mais c'est vrai aussi sur le plan morphogénétique. Et donc, elle se fixe moins, ça diffuse plus lentement, et je vais avoir un gradient plus long de mon morphogène. Et donc, je ne vais pas aller activer les molécules que je devrais activer. Et en plus, dans le cas de l'œuf, de l'aile de drosophile, en plus, dans ce cas-là, je ne suis même pas dans le compartiment qui serait le compartiment nécessaire. Donc, c'est une revue très récente de Isabelle dans Trends in Cell Biology. D'ailleurs, je vous signale que ceux qui veulent toutes les premières pages, enfin, tout le diaporama en informatique, m'envoient un mail et je leur enverrai toutes les diapos des 10 heures de cours. Hein. Comme ça vous permettra de réviser pour l'année prochaine. Donc, alors, avant de passer au poil, vous voyez que le poil apparaît tout d'un coup, hein, subrepticement. Mais là, c'est ce qui se passe chez la drosophile, ça, c'est ce qui se passe chez les vertébrés. Donc, là, je n'ai plus besoin de vous raconter, Hedgehog est synthétisé, là, c'est la drosophile, donc c'est Hedgehog, là, c'est Sonic Hedgehog, et puis je vais me fixer sur des protéoglycanes, Dali-like. Ici, je suis toujours chez la drosophile. Et il y a une seule chose qu'il faut comprendre, c'est que quand je ne réponds pas, c'est-à-dire quand je n'ai pas de hedgehog fixé sur patch, j'ai ici Smoothen qui est dans ce domaine. Et Smoothen entraîne... je n'ai pas d'activité. Du fait, du coup, j'ai une phosphorylation je n'ai pas de phosphorylation en fait de supérateur au fuse, c'est pas le problème. Ce qui se passe en fait, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que cubitus interruptus, qui est le facteur de transcription qui finalement va aller rendre compte de la présence de Sonic ou de son absence, ou des jogs ou de son absence, bien cubitus interruptus est dégradé et donne une forme CIR qui est une forme répressive au niveau génomique. Avec en interaction avec supérieur avec suppresseur refuse. Quand je suis chez un vertébré, Sonic et Jog ce coup-ci est fabriqué de la même façon. Quand ma cellule ne répond pas, vous voyez que j'ai une inhibition de Smoothen par patch. Et dans un système qui est extraordinairement proche, Gli maintenant qui sont les orthologues de cubitus interruptus sont dégradés. Par le protéasome, et j'ai des formes répressives de Gli. Par contre, quand j'active Patch, par Sonic et Jog qui vient se mettre ici sur Patch, je libère Smoothen, et alors c'est là qu'il faut voir, ça monte sur le poil, hein, et c'est au niveau du poil que j'ai l'interaction entre supérieur refuse et Gli, hein, qui permet à Gli de redescendre par des moteurs moléculaires qui suivent ici des microtubules, et qui vont aller emmener Gli au niveau du cytoplasme et qui vont faire un Gli de 3 activateurs, c'est-à-dire non dégradé. Alors, activateur, répresseur, activateur, répresseur. Les deux systèmes sont relativement conservés entre les deux embranchements, ceux des arthropodes et ceux des vertébrés, avec évidemment quelques variations, comme toujours. Il y a quand même quelques 600 millions d'années de différence au niveau évolutif. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 600 millions d'années quand c'est séparé des arthropodes. Et ils se sont séparés de nous aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Toujours pareil. Donc, je vais donc vous parler maintenant, si vous voulez bien, des poils. Une affaire importante, le poil, parce que... d'abord, je vais vous montrer en quoi le poil est important pour la signalisation, et ensuite, comment le poil est important pour le transport. Parce qu'au fond... Au fond, ça pourrait bien être une affaire de poils, tout ça. Toutes les cellules sont ciliées. Hein. Certains d'entre nous qui pensaient, moi d'ailleurs le premier il y a quelques années, que le cil, c'est quelque chose de très particulier. Par exemple, le spermatozoïde a un cil, il hein, faut bien qu'il nage. Et que peu de cellules, les cellules de l'oreille interne, des cils hein, qui vibrent. Il y a plein de cellules qui ont des cils, mais on savait qu'ils ont des cils. Mais en fait, toutes les cellules ont un cil. Les neurones ont un cil, toutes les cellules ont un cil. Donc, on ne sait pas à quoi servent ces cils. Peut-être qu'ils servent d'abord à la signalisation, mais peut-être aussi, quand ils sont ensemble, au mouvement des morphogènes. Et vous allez voir qu'il y a des cas très très précis où on sait que les cils sont fondamentaux pour le mouvement des morphogènes. Alors là, je ne sais plus quel genre de cellule c'est, ça. J'ai un peu perdu le fil avec tout ça. Je suis désolé, hein, mais je ne suis pas un type très organisé, comme vous pouvez voir. Donc,
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.